un balado musical qui bouscule ses propres conventions juste quand ça fait son affaire.
C'est vrai, on bouscule les conventions aujourd'hui parce que vous avez entendu deux personnes rire de cette intro. Vous avez entendu moi, François, et vous avez entendu aussi notre invité spécial, Marc-André Bongrain. Bonjour.
Salut. Merci de l'invitation.
Ben, merci d'être là. C'est vraiment agréable de se parler en vrai.
C'est un grand plaisir. Premièrement, c'est le fun de se parler en vrai. Deuxièmement, pour vrai, là, l'exercice, j'ai passé beaucoup trop de temps là-dedans, j'ai eu beaucoup trop de fun. Vraiment, là.
On a fait appel à toi parce que on te connaît par Sortu.ca. Vous avez travaillé ensemble, les gars. Toi, tu as fondé Sortu.ca, si je ne m'abuse.
Oui, exactement. C'est moi qui l'ai fondé il y a 10 ans, ouais.
Et il y a 10 ans, et ça fonctionne encore. Encore beaucoup de critiques qui sont publiées, beaucoup d'articles parfois acerbes, mais j'aime beaucoup votre style un peu différent de ce qui se fait dans les grands médias traditionnels. Puis vous faites une bonne tribune pour toutes les sortes de scènes. Hein? Il y a beaucoup plus pop, puis vous allez chercher des choses vraiment...
Ouais, puis même pas juste loin. La musique, mon ce que je dis toujours, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est un humain sur une scène qui performe. Fait que musique, humour, théâtre, danse, cirque, mais c'est 80% musique, mettons. Puis effectivement, on peut autant parler de Lana Del Rey au Centre Bell qu'on peut parler de Bardot au Quai des Brumes. On y va dans le petit, puis on y va dans le gros, on va juste pas dans le Star Academy, puis on va pas dans le 40 ans plus.
Dans le 40 ans plus...
Ben genre, on va pas parler, mettons, de Ginette Renault ou de...
OK, OK.
Tu vois, de ce genre-là, de ce qui intéresse un public boomer, mettons. Là.
Oh, OK.
Quoi que ça peut arriver qu'on parle de Pink Floyd, ça arrive.
Nous autres aussi.
Oui, c'est vrai.
C'est ça.
Alors, on t'a invité pour notre 15e épisode qui est un épisode depuis le début, en fait, depuis qu'on a commencé à élaborer l'idée du podcast. Il y a un sujet qui nous brûlait les lèvres, Lana Del Rey. Parce que sa discographie est ponctuée de chansons qui ont le même titre que des chansons d'autres artistes. Il y en a tellement qu'on se serait retrouvé avec Lana Del Rey un épisode sur deux si on avait suivi la formule. Alors ce soir, on règle la question Lana Del Rey. Ce soir, c'est Lana Del Rey contre le monde. Veux-tu nous présenter le concept, Mathieu?
Oui, en fait, bon, pour ceux qui nous suivent depuis un bout, One contre One, c'est on prend deux chansons qui ont le même titre puis on dit... Dans le fond, c'est une excuse pour parler de musique, en fait. Ouais. C'est pas un concours. Mais ce soir, c'est un concours. On revient à nos racines, en fait, parce
oui, c'est
que
ça.
Pour ceux qui viennent de nous découvrir, l'épisode 1, qui s'appelle One contre One, on a tenté de faire un concours entre One de Metallica et One de U2. Puis, ça avait plus ou moins bien marché, puis on n'avait pas vraiment bien compté les points.
Puis, de toute façon, se mettre toujours en opposition, opposer des chansons, c'est pas toujours une formule gagnante.
Non, puis des fois, ça se compare juste pas. La musique, c'est tellement subjectif. Mais ce soir, je pense qu'avec trois experts... On va arriver à quelque chose.
On a rassemblé 15 chansons de Lana Del Rey qui ont le même titre qu'une chanson de quelqu'un d'autre. La mission des trois panélistes a été de comparer les chansons et d'accorder un vote à une ou l'autre de ces chansons-là. On va les défiler une par une et on va échanger et voter. Donc, pour commencer, je pense que étant une grande artiste américaine, Lana Del Rey, on devrait commencer géographiquement par son pays d'origine, les États-Unis d'Amérique. Et le plus grand État, en termes de population, c'est la Californie. Alors, la Californie avec la chanson California, et Lana Del Rey a fait une chanson qui s'appelle California, tout comme Grimes. Alors, qui, selon toi, Marc-André, a fait la meilleure chanson California?
Ben, écoute, je vais commencer les hostilités, comme tu le dis, en avouant quelque chose qui choque bien du monde, c'est que je suis pas un grand fan de Grimes, puis je sais que c'est un sacrilège pour bien du monde, mais très franchement, la chanson California, c'en est une de Grimes que je trouve plutôt agréable. Quand j'ai écouté les deux côte à côte, là, on s'entend que quand on vote pour une ou pour l'autre, on y va pas pour son importance historique, on y va pour des préférences personnelles, là, on s'entend?
Tout à fait.
Est-ce que tu dirais qu'il y a une chanson qui a une importance historique dans celle-là?
Non, pas du tout, mais okay. Je voulais mettre ça au clair dès le
début.
Parce qu'il y a certains choix que je vais faire que ça va venir...
Oui,
c'est beau. Mais non, dans ces deux cas-là, je pense que c'est des chansons qui se valent historiquement parlant. Mais juste parce que c'est une des rares chansons de Grimes que j'apprécie et que je trouve que c'est pas nécessairement dans la meilleure moitié de ce qu'a fait Lana Del Rey, mon vote irait pour Grimes. Étrangement, j'aurais jamais pensé dire ça, mais dans ce cas-là, particulièrement, je vote pour Grimes.
C'est drôle, je suis vraiment content qu'on ait commencé par ça parce que ça établit les bases. C'est exactement l'opposé pour moi. C'est une de mes chansons préférées de Lana Del Rey. Et c'est celle-là qui m'a particulièrement accroché sur Norman fucking Rockwell. Le matin, moi, j'ai mon rituel d'écouter de la musique, souvent en déjeunant. Et j'ai des enfants qui déjeunent au comptoir et je leur mets de la musique. Puis... ils peuvent pas savoir si c'est l'album qui vient de sortir la semaine passée ou quelque chose qui est sorti il y a 50 ans et que je leur ressors. Et je leur sers des céréales et ça, j'accroche sur cette chanson-là. Et c'est ça qui m'a dit, OK, cet album-là, on le réécoute. Et ça a fonctionné. California, ce qui est drôle, c'est que Grimes, la chanson de Grimes, je l'aime beaucoup cette chanson-là, mais si Grimes avait battu avec cette chanson-là, ma chanson préférée de Lana Del Rey, on aurait eu un petit problème. You've got the blues, changing like the weather, oh that's so like you. The Santa Ana moves you. Donc, je vote pour Lana.
Écoute, c'est bon. En fait, moi, je suis avec François pour celle-là. D'ailleurs, dans mes notes, j'ai été surpris que les Red Hot Chili Peppers n'aient pas eu de chanson qui s'appelle California.
California tout court.
Parce qu'il y a un article, je pense, de The Onion ou de Hard Times qui est un faux article de journal qui dit que le prochain album des Red Hot Chili Peppers n'est que la page Wikipédia de la Californie. En tout cas, ça pour dire que oui, c'est une de mes préférées aussi sur Norman fucking Rockwell. Quoique ma préférée, c'est Venice Bitch.
Moi aussi.
Malheureusement, on n'a pas trouvé un autre artiste qui avait une chanson du même titre parce qu'on aurait pu faire un épisode juste sur cette chanson-là. Grimes, comme Marc-André, ça vient pas me chercher et j'ai écouté la chanson de Grimes, je l'ai fini de peine et de misère. Ça vient juste pas me chercher. Je pense que je suis trop vieux pour son public cible.
Est-ce que c'est avec toi que je l'ai vu à Oshiaga, Grimes?
Oui.
En première partie de Radiohead, première partie entre guillemets, et elle était malade. Elle est allée vomir backstage, puis elle a pas fini son spectacle.
Ouais, parce que c'est plein tout le long. Moi, je la trouve plein.
Ouais, c'est vrai.
Elle est tout en train de se plaindre. J'ai mal au ventre, je m'excuse, machin. Comme pour vrai, la ferme, là, j'avais envie d'y lancer mon soulier. Je la trouve insupportable, Eve. Je trouve que c'est une personne insupportable.
Hey, ben c'est tellement drôle parce que moi, je l'ai vu, puis j'ai fait « Oh, pauvre petite chouette, elle se donne quand même. » Puis le spectacle est quand même entraînant, c'est quand même bon. Puis en plus de ça, elle fait ça malade. On n'a pas la même perspective sur la vie. Je trouve ça parfait. Ça fait beaucoup de friction dans ce podcast. Alors, si je me permets de récapituler, deux votes pour California de Lana Del Rey et un vote pour le monde. Est-ce que tu veux nous indiquer ça, s'il te plaît, au compteur?
C'est déjà fait.
Merci. Là, je pense qu'on entre dans le vif du sujet. Là. California, c'était seulement une mise en bouche. On arrive avec du sérieux. Iggy Pop, qui s'est commis d'une chanson intitulée Lost for Life, tout comme Lana Del Rey.
Et comme chacun, un album du même nom.
Oui, un album, et là, on se concentre sur la chanson. On commence avec toi, Mathieu? Lost for Life?
Écoute, moi, ça n'a pas été vraiment difficile, celle-là. Quoique Lost for Life est un très bon album de Lana Del Rey, on va en parler beaucoup ce soir. J'ai pas eu le choix de donner mon vote à Iggy Pop. l'importance là, de... Ben, tu sais, Marc-André, il parlait tantôt là, de l'impact là, historique.
Oui.
Écoute, c'est un album important de la carrière d'Iggy, Iggy Pop, et des années 90 à cause de Trainspotting. Vraiment, moi, c'est mon film préféré.
Oui.
Fait que, il y avait, je m'excuse, mais il n'y avait pas de tempo là-dessus.
Totalement d'accord, c'est impossible de donner ce point-là à Lana Del Rey. C'est une chanson iconique que tout le monde connaît, qui est entraînante, qui représente les années 90. C'est... Désolé, là, elle aurait pu écrire un chef-d'œuvre, puis ça n'aurait pas passé. C'est définitivement Iggy Pop là-dessus.
Je me disais, en écoutant la chanson de Lana Del Rey, elle n'avait pas besoin d'appeler ça Lost for Life.
Non, je me suis dit ça moi aussi. C'était...
Ça aurait pu s'appeler quelque chose d'autre facilement, là.
D'autant plus que la chanson d'Iggy Pop représente bien ce que je comprends de l'expression « lost for life », tu sais, cette espèce de soif là, de vivre animal un peu. Je trouve que cette chanson-là porte bien son nom, puis celle de Lana Del Rey, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'eût été une bonne chanson à mettre en confrontation avec autre chose, avec un autre titre.
Alors, ben, moi aussi, je me range du côté de la famille. Je suis désolé, mais c'est Iggy qui gagne de ce côté-là. Ça marche tellement bien dans un film et ça me surprend à quel point ça n'a pas été utilisé tant que ça dans les films parce que c'est une chanson de montage, j'ai l'impression. Quand le personnage principal décide de prendre sa vie en main et, par exemple, commence à s'entraîner, il me semble que ça fonctionnerait bien.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Alors, on a donc 3 points pour Iggy Pop là-dessus. Bon, alors, une fois que le dossier d'Iggy Pop est clos, on va continuer avec une autre légende du rock'n'roll, The Cure, et la chanson Love Song. Je me permets de commencer, je me dirais, la chanson Love Song de The Cure, c'est pas vraiment une chanson d'amour, c'est plutôt une profession de foi. C'est extrêmement répétitif et on ajoute toujours des éléments. Quand t'es avec moi, je me sens comme ça. C'est une excellente chanson et si c'était pour son importance historique, je donnerais le point à The Cure. Cependant, la chanson de Lana Del Rey, c'est une chanson d'amour qui parle d'une chanson d'amour. Moi, j'aime les mises en abîme, alors je suis obligé de donner le point à Lana Del Rey. Be my once in a lifetime. Lying on your chest, in my body dress, I'm a fucking mess, but I... Oh, thanks for the highlight. Baby, you're surprised, pass the test and yes, now I'm here with you and I... Would like to think that you would stick around. You know that I just died to make you proud. The taste, the touch, the way we love, it all comes down to make the sound of our love song.
Moi je vais y aller aussi. The Cure, un de mes groupes préférés. C'est une tune sur mon album préféré du groupe. Tout simplement, je vais donner le point à The Cure.
Oh, d'accord.
Juste pour ça, même si c'est pas ma préférée sur Disintegration.
D'accord. On passe à Marc-André.
Ouais, celle-là, j'ai trouvé que c'était un close call, comme disent les Iroquois. Parce que je trouve que c'est une bonne chanson de Cure. C'est aussi une bonne chanson de Lana Del Rey. Puis j'ai aussi aimé l'aspect mise en abîme des paroles. Je trouve que c'est une chanson bien écrite, plus moderne, évidemment. Fait que je vais y aller avec un vote légèrement pour Lana Del Rey, mais un vote complet. Lana Del Rey, je tiens à dire quand même que si ça avait été Love Song de Idols, j'aurais voté pour Idols.
Oh, ok. I wrote a love song, cause you're so lovable. I carry the watermelon, I wanna be vulnerable.
Je ne l'ai pas vu passer.
On va mettre ça dans nos oreilles si tôt. sitôt le podcast terminé et on va avoir le lien dans sur notre page web. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les notes pour cet épisode, mon cher Mathieu?
À entrer dans votre Netscape wand.contre.wand et faites Enter, vous allez voir le tout.
J'espère que si vous utilisez Netscape, ça va fonctionner. je peux rien garantir, mais je suis quand même confiant.
Sinon, on peut envoyer le lien par caramel.
Ah oui!
Ah oui, sinon, ICQ, on est bien branché. Ouais. Non, mais sinon, on va mettre ça sur notre Facebook. Puis notre
on va mettre
Twitter,
ça sur notre Facebook aussi. Alors, vous pouvez nous trouver assez facilement et vous allez trouver un lien vers toutes ces chansons. Les choses restent sérieuses complètement parce qu'on passe à Jump, la chanson Jump qui a été faite par Van Halen avant d'avoir été faite par Lana Del Rey. Marc-André, est-ce que tu es un fan de Van Halen?
Je suis pas vraiment un fan de Van Halen. J'ai bien la misère avec les années... c'est plus années 80, un peu Van Halen. Je suis pas un grand fan. Mais surtout, je vous félicite d'être allé chercher vraiment une deep cut de Lana Del Rey. Elle se trouve même pas sur Spotify, cette chanson-là.
C'est même pas Lana qui chante ça. C'est Lizzie Grant, officiellement.
C'est ça. C'était à l'époque où elle avait même pas le même nom. Puis c'est drôle. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Écouter ça, c'était sympathique. Je trouve une espèce de Lana Del Rey... beaucoup moins subtile, plus entraînante. Mais j'ai trouvé ça charmant comme chanson, mais honnêtement, je pense qu'il faut quand même donner le point à Van Halen parce que ça demeure une excellente chanson pour faire de l'exercice en les hauteurs. Et ça, c'est très important qu'on ait le plus possible de chansons de fitness. Et ça, c'est une excellente chanson.
Oui, c'est vrai que c'est important de garder la forme.
Garder la forme,
drôle parce que moi...
Mais, fait que finalement, Marc-André, tu donnes la note à qui?
À Van Halen.
Ah, oh, ouais?
Ouais.
OK.
Pour le LOL de l'affaire, écoute, on est LOL contre LOL ici, là, puis...
C'est drôle parce que moi, en réécoutant Jump, je me suis dit, je suis pas mal certain qu'il y a personne qui aime la chanson Jump, mais que tout le monde aime la séquence d'accords du début. Parce que la chanson est quand même invivable.
Et
la chanson... Elle est plate, elle lève jamais.
Ouais.
Le paroxysme de la chanson est atteint dans les trois premières secondes. Puis après ça, c'est juste... c'est procédural, c'est lourd. Et à côté de ça, on a les premières armes d'une chanteuse, justement. Comme tu dis, une chanson qui n'était même pas sous son nom d'artiste assumé, qui est une chanson... très bien faite et un peu suggestive. Je préfère beaucoup ce jump-là. Donc, mon vote est pour Lana ou bien pour Lizzie.
C'est ce que Lizzie, c'est une colonne.
C'est vrai, on n'avait pas... Faut que j'ajoute une colonne Lizzie contre le monde.
Non, je vais...
moi aussi, mon vote va pour... Moi, comme François, mon vote, il va pour Lana Del Rey ou Elizabeth Grant. Juste parce que j'haïs cette tune-là de Van Halen. Mais j'haïs Van Halen. J'aime juste pas ça. Je suis pas capable. J'ai beaucoup de respect comme musicien, mais... Et voilà. Mais c'est une bonne chanson à beat de Lana Del Rey, ce qui est pas très commun là, de son catalogue.
Jamais entendu. Mais j'étais un peu déçu, encore une fois, qu'on l'ait pas comparé à Jump de Criss Cross. Là, j'aurais été all in avec Criss Cross. Ouais.
C'était-tu leur hit?
Ben oui. Jump! Jump!
What about a matter?
Oh mon Dieu!
Jump! J'étais sûr que ça s'appelait autre chose.
Non, c'était Jump. Hein.
Ouais!
Excellente chanson, d'ailleurs, qui avait été... Aïe, 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 là, je m'avance dans quelque chose puis j'ai pas le nom. Mais celui qui a produit cette chanson-là est quand même relativement connu et respectable. En tout cas, bref, c'est meilleur qu'on se rappelle Criss Cross.
Ah oui?
OK, je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça à soir, mais écoute, c'est vraiment ça le but du podcast, en fait, c'est de se surprendre entre nous autres.
Oui, effectivement.
Hey, on passe vite parce qu'on a vraiment un gros programme ce soir et on veut pas faire une balado absolument imbuvable.
Ouais.
Je pense qu'on va y aller quelque chose d'assez costaud. Hey, on a triché un peu. National Anthem versus The National Anthem.
Ouais.
Radiohead contre Lana Del Rey. Je sais qu'on est trois fans finis de Radiohead autour de la table. François, commence donc. Je connais un peu ton opinion
okay.
là-dessus.
Ben, moi, j'avais un gros billet pour Radiohead. Et donc, la chanson de Lana Del Rey a une musique accrocheuse. Mais bon, les paroles sont pas fortes là-dessus. Là. Puis après ça, je me suis rappelé les paroles de National Anthem de Radiohead. Puis je me suis dit que c'est pas beaucoup mieux, tu sais. La chanson de Lana Del Rey, on dirait, tu sais, un essai de deuxième degré qui est pas très habile. Mais pour faire l'album Kid A, Radiohead ont littéralement pigé des paroles au hasard dans un chapeau. Alors, je serais vraiment mal placé de reprocher ça à Lana Del Rey. Toutefois, je vote pour Radiohead pour la finale, pour le quatuor à la fin, qui, selon la petite histoire, s'était fait dire de jouer comme si c'était un embouteillage. Et on sent cette l'oppression qui est amenée par les cuivres et les bois à la fin. Et je pense que la chanson mérite son point pour ça.
Marc-André?
Ben écoute, pour moi, il n'y a pas photo. Là, on tombe vraiment dans ma cour avec Radiohead, National Anthem. Écoute, imaginez là, la fameuse théorie selon laquelle Kid A est un album concept qui raconte l'histoire d'un enfant cloné de sa naissance à sa mort. National Anthem est comme son passage à l'adolescence avec la finale Free Jazz. On s'en fout des paroles dans cette chanson-là. Il y a à peu près 8 mots. C'est carrément un trip musical. C'est autre chose, là. C'est d'une autre planète pour moi. Puis effectivement, j'ai trouvé que les paroles de National Anthem de Lana Del Rey sont vraiment décevantes. Pour moi, il n'y a pas photo là-dessus. Je donnerais 3 points à Radiohead.
Oh, ça marche pas de même.
Ouais, gars, ça s'aille.
Mathieu, est-ce que tu y vas avec la famille?
Oh, absolument. Écoute, j'ai quelque chose d'autre à dire là-dessus. Non, pas vraiment. Là. Écoute, c'est un album 10 sur 10. Là,
c'est vrai.
Kid A. Quoique Born to Die de Lana Del Rey, quand même un bon album. C'est ça, sa chanson est bonne, c'est bien produit. C'est un peu quand même typique là, de ce qu'elle fait. Là. Ça se démarque pas autant de toute sa discographie, alors qu'à l'époque, Radiohead est arrivé avec Kid A.
Ok, écoute, oui.
On s'y attendait tellement pas. Là, je m'en rappelle encore, ça fait 20 ans, puis
ouais.
Je suis encore sur le derrière. Bref. C'est unanime.
C'est unanime pour National Anthem. Maintenant, on parle, parce que depuis tantôt, là, on fait des comparaisons, puis on fait des sauts de 20 ans, des sauts de 10 ans, de 30 ans entre les chansons. Et là, West Coast de Imagine Dragons. Donc, ce sont des chansons pratiquement contemporaine. West Coast, donc. Mathieu, on va commencer avec toi.
Je regarde mes notes, là. Imagine Dragon, j'ai une série de Z à côté parce que je me suis endormi dessus. écoute, c'est... j'ai aussi écrit, je l'ai pas écouté au complet, parce que Imagine Dragon, c'est le genre de groupe tu connais une toune. Tu sais, t'as entendu une toune, tu connais toutes, c'est propre, c'est ma tante. C'est pour les gens qui aiment pas la musique, en fait. Tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Voilà.
OK, Marc-André, sur ces dures paroles.
Je ne serai pas guère plus gentil, je pense. D'ailleurs, je connaissais cette chanson-là, je ne savais pas. Je pensais que c'était une chanson de Mumford & Sons. Je pensais qu'Imagine Dragons, c'était plus rock que ça. Finalement, c'est Imagine Dragons, puis Arc, c'est vraiment mauvais, j'haïs ça. Alors que West Coast de Lana Del Rey, c'est une de mes chansons préférées d'elle. J'aime beaucoup les changements de rythme d'un segment à l'autre. C'est vraiment riche comme chanson. Moi, j'ai all the way, là, vraiment. Là. Si je pouvais mettre 3 points à Radiohead tantôt, j'en mettrais 3 à Lana Del Rey là-dessus. Là.
C'est vrai que c'est une excellente chanson de Lana Del Rey. Une production tout en finesse, sans perdre ses repères.
Oui.
Le reverb qui coule, les chœurs. Il y a même une petite interpolation des Beatles. Il y a un riff de guitare qui ressemble beaucoup à And I Love Her. Mmh. qui fonctionne très bien avec la chanson. Et en comparaison avec la surproduction de Imagine Dragons, pour vrai, cette chanson-là, je ne la connaissais pas d'Imagine Dragons. En commençant, je me dis, bon, une petite chanson acoustique, ça va être différent de leur surproduction habituelle. Là, après ça, le petit riff de mandoline qui fait un peu cow-boy fringant, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Et le refrain grandiloquent qui est imbuvable. Je donne le point à Lana Del Rey aussi assez facilement.
Écoute, c'est un autre unanime pour notre belle Lana. Je pense que c'était pas vraiment difficile dans ce cas-là. Ah, et même le clip d'Imagine Dragons, c'est une longue série de clichés d'un groupe rock en tournée, mais, mais propre.
Okay. Pourquoi tu t'es infligé ça?
Je me suis infligé ce clip-là. Mais comme j'ai dit, pas vraiment au complet. Je pense qu'à 30 secondes de la fin, j'ai tiré la serviette dans le bucket. Je n'étais plus capable.
Parlant de plus être capable, Freak, comparer Lana Del Rey et Silverchair sur des chansons qui s'appellent Freak. Marc-André, ouais. Je vois ton sourire.
Ouais, je peux peut-être commencer là-dessus. Moi, j'avoue que j'ai eu une grosse passe Silverchair dans mon adolescence et j'ai laissé ça de côté depuis 25 ans. Vous m'avez permis de refouiller dans mon adolescence à nouveau, puis ça m'a fait un grand bien d'écouter ce band wannabe Nirvana à sous. Yeah, yeah, I'm a freak nature. Sur son deuxième album en plus, qui était vraiment pas son meilleur, mais quand même grosse guitare, ça sonnait cette chanson-là, ça m'a vraiment fait plaisir d'écouter ça. Puis j'aime bien la chanson de Lana aussi, mais honnêtement, je vais y aller avec un point nostalgie, puis je pense que je vais vous choquer avec ça, mais je vais donner le point à Silverchair.
Oh!
Ouais, je vais oser
choqué,
faire ça.
Choqué, tu penses?
Un point Big Shiny Tunes.
Un point, choqué, tu veux dire? Parce que moi aussi, mon point va à Silverchair.
Oh! Revirement de
situation. On a le même an. On a un an différent, je pense, que grosso modo. Écoute, moi aussi, j'ai eu ma passe Silverchair. C'est un groupe de Californie, mais ça sonne plus comme la scène de Seattle des années 90.
Non, c'est un groupe australien, Silverchair.
Australien, mais oui, excuse. L'Australie, c'est comme la Californie un peu du monde.
Les années 70 vont...
Les années 90 vont
faire que les années 50 ressemblent aux années 60 ou quelque chose.
Tous les Australiens sont relax. C'est pour ça que je me suis gouré un peu dans ce que je disais. Grosse production, pareil, hein, cet album-là des Silverchair.
Ça sonne, mais
c'est une coquille vide.
Ouais.
Oh!
C'est une coquille... Hey, sérieusement, là, cette chanson-là, là, c'est comme... Voici, on a pris les ingrédients du grunge... Puis on les a mis ensemble, mais c'est vraiment là pour faire du millage sur le son que les jeunes aiment. Moi, ça m'a dit bof, un gros bof. Puis la toune de Lana Del Rey avec le petit beatbox un peu trap. Non, moi, c'est un gros pof. Alors, je brise la tradition. Je m'abstiens pour celle-là. Je ne porte aucun vote entre ces deux chansons-là. Hey,
on a
Freak.
Le droit de faire ça? Je savais pas.
Même si on n'a pas le droit, je prends le droit. Je revendique le droit. Je suis chez nous.
OK, c'est vous autres qui faites les règles. Hein, tu veux.
Écoute, là, ça vient... Parce que moi, je m'étais dit, on va être trois avec 15 chansons. Il n'y aura pas de possibilité d'égalité.
Écoute, on n'aura pas le choix. Faire, ouais.
Il y a des chances qu'on tombe en prolongation.
J'ai la prolongation dans la petite poche.
Ben, c'est bon, OK, parce que One contre One, là, c'est comme du hockey de série. Là. Si on va en sixième prolongation, là, on va le faire. Là.
Non, on fera comme du baseball de confinement. Là. Puis on change les règles d'une prolongation. Puis... OK, bon, c'était un peu niché. Passons à quelque chose de vraiment moins niché. Swan Song, un duel... contre Dua Lipa,
qui apparemment existe.
Ben oui, non, mais c'est gros quand même.
Ben, je me suis rendu compte de ça, que c'est gros.
Et si tu cherches Swan Song dans Apple Music, c'est notre premier duo de chansons qui se retrouve littéralement en première et en deuxième place dans l'outil de recherche. Mm-hmm. Si tu cherches California, tu vas tomber sur des groupes, sur des albums, quoi que ce soit. Tu vas tomber sur plein d'affaires. Mais Swan Song, c'est Dua Lipa puis Lana Del Rey. C'était mon petit factoïde Apple Music du jour présenté par Apple Music.
On n'est même pas payé pour ça.
On va couper ça. OK, donc, Dua Lipa, pas mauvais, mais Lana Del Rey, c'est quand même une grosse coche au-dessus. Je pense que, moi, là, dans ma théorie du complot intérieur, Lana Del Rey se gardait cette chanson-là pour quand elle se ferait proposer de faire la musique d'un James Bond. Parce que, tu sais, mettons, ça, c'est Jack White, des White Stripes, qui s'était dit ça. Il avait composé le riff de Seven Nation Army, puis il s'était dit, ça, quand je vais être big, puis qu'on va me proposer de faire la musique d'un James Bond, ça va être ça. Mais sauf qu'évidemment, il n'a pas attendu. Mais bon, Lana Del Rey, un point de ma part pour sa chanson qui aurait très bien pu figurer au générique d'un James Bond. Marc-André, qu'en as-tu pensé?
Ben écoute, moi, j'aime bien Dua Lipa, honnêtement, depuis à peu près 2 ans. Puis, ça a été tough, celle-là, je trouve. Je trouve que c'est 2 bonnes chansons de 2 chanteuses pop qui ont du goût, je trouve. Mais mon vote va quand même aller du côté de Lana Del Rey, parce que je trouve que dans ce cas-là en particulier, sa chanson a un petit peu plus de swag, je trouve. C'est une chanson cool, je trouve, de Lana Del Rey. Je ne sais pas au niveau de la profondeur, mais je la trouve très, très cool. Je trouve qu'elle sonne bien. Dua Lipa, c'est aussi une bonne production. Honnêtement, c'était assez proche, mais je vais y aller avec Lana.
C'est noté.
Ben moi aussi, j'y vais avec Lana Del Rey. Dua Lipa, pour moi, ça a été une découverte. Je sais que c'est... Ben, là, j'ai appris que c'était vraiment gros comme artiste, mais ça démontre comment je suis un petit peu déconnecté de la grande pop. What is the point of my lips if they don't make noise? What is the point of doing nothing at all? Watching it fall.
C'est ça, dans mes notes, j'ai dit que c'était une balade un peu typique de Lana Del Rey quand même. C'était peut-être pas ma préférée. Le clip est quand même intéressant, inspiré de l'assassinat de JFK. Moi, je donne le point. C'est quand même une bonne chanson de notre ami Lana.
Un autre blanchissage pour Lana Del Rey?
Ça en prend quelques-uns.
Et alors, on serait peut-être dû pour du changement. Ah, je suis désolé pour cette transition vraiment poche. La chanson Change. La chanson Change de Lana Del Rey partage son nom avec une chanson de Christina Aguilera. Et je suis content, Mathieu, que tu n'aies pas encore voulu tricher en nous proposant un Changes au pluriel. Puis là, David Bowie contre Lana Del Rey, ça aurait pas été facile.
Ouais, j'essaie de pas trop... Déjà que je trouve qu'avec National Anthem et The National Anthem, je trouve
notre
qu'on l'a poussé...
Déjà fait.
Mais on a poussé aussi notre premier épisode Saint-Jean-Baptiste aussi.
Ouais, c'est vrai.
Alors, non, c'est pas vrai, c'est le prochain. Non, c'est vrai. Hey, j'allais vendre...
Secret de coulisses.
On va couper ça. Qu'est-ce que t'as pensé de Change, Mathieu?
C'est là que je me suis quand même rendu compte que Lana Del Rey, c'est une chanteuse pop, mais avec beaucoup plus de swag, justement, puis un peu plus aventureuse. Parce que la tune de Christina Aguilera, je pense qu'elle est quoi, 3 minutes, 4 minutes, gros max? Puis je me suis rendu compte que la plupart des chansons de Lana Del Rey sont quand même assez longues.
Mm-hmm.
Alors que Christina Aguilera, ben, tu sais, c'est une chanteuse pop, là. Puis cette tune-là, Change... C'est une espèce de balade, c'est du R&B, c'est du gospel. Moi, c'est vraiment juste parce que ça vient zéro me chercher. Les grandes envolées vocales, c'est vraiment pas pour moi. Et je tenais à dire aussi ce que j'ai écrit dans mes notes. J'ai tellement respecté le thème du podcast que j'ai exclu la chanson Change des Deftones.
Ouais, j'y pensé, ben oui.
Parce qu'il y a une parenthèse, là.
In the House of Flies, ben oui.
OK.
Parce que sinon, mon point sera allé aux Deftones, mais ils ne sont pas dans la compétition ce soir.
Ouais.
D'accord. Marc-André?
Ouais, pour ma part, moi, j'avais jamais entendu cette chanson-là de Christina Aguilera. Je ne vais pas détester ça, mais c'est pas trop mon genre non plus. Waiting for a change to set us free. Waiting for the day when you can be you. Je trouve que c'est un peu sans saveur, alors que celle de Lana Del Rey, elle est fun, aventureuse. Je trouve que c'est du bon Lana Del Rey, là, du milieu Lana Del Rey. Si on faisait un top 100 de ses chansons, hein, ce serait quelque part entre 40 et 50 ou quoi du genre. Là, fait que go pour un petit vote Lana.
La chanson de Christina Aguilera, je crois, a été lancée à la suite d'une tragédie, d'une fusillade aux États-Unis. Je pense que c'est la fusillade au nightclub Pulse d'Orlando. Et donc, c'est pour ça que ça sonne un peu vaguement chanson d'inspiration, chanson de campagne. J'ai trouvé ça un peu insipide, puis que ça me manquait le point. Les paroles de Lana Del Rey ne m'ont pas particulièrement inspiré dans Change non plus. Je donne un point très mou à Lana Del Rey.
J'aime ça, les points mous.
on passe au suivant. On change de style. On y va avec la chanson « Heroin ». Et bien sûr, on va parler des Velvet Underground. Je vais commencer par une confession.
Vas-y.
Les Velvet Underground, surtout cet album-là, j'ai beaucoup de respect.
Oui.
Je sais que c'est l'album préféré de beaucoup de mes artistes que j'aime.
Mais
je ne l'ai pas écouté si souvent que ça.
Ouais.
On dirait que je sais pas pourquoi je n'y retourne pas tant que ça, parce que justement, j'écoutais la chanson Heroin des Velvets. Chose, tu sais, 7 minutes avec des crescendo. La production est un peu shaky, comme Sonic Youth l'ont fait comme 20 ans après. Tu sais, c'est tout. Tout est bon là-dedans, finalement. Là. Puis d'ailleurs, je leur donne mon point. Mais je dois admettre que je suis pas le plus grand connaisseur de l'œuvre. Donc, ça. Je viens peut-être de perdre un peu de crédibilité.
Marc-André, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben, la chanson des Velvet Underground, moi, je la trouve savoureusement insupportable. ça connecte avec mon acouphène d'une façon violente. Il y a un ciment tout le long. Elle est ben trop longue et répétitive. Je trouve que c'est vraiment les Velvet Underground sur un trip. Moi aussi, là, respect pour les Velvet Underground. Lou Reed, c'est à côté de la coche une fois sur deux, je dirais. Dans ce cas-ci, c'est un peu le cas. Pas un gros fan de cette chanson-là. Celle de Lana Del Rey, en revanche, je trouve que les paroles sont vraiment intéressantes. Moi, j'irais all the way pour Lana.
Oh, un point pour Lana ici. Moi, j'ai trouvé que c'était pas juste comme duel, parce que la chanson des Velvet Underground, c'est écrit à la première personne et la chanson de Lana Del Rey est écrite à la deuxième personne. Donc, mm-hmm. On perd du direct de l'héroïne. Je trouve que l'écriture de Lana Del Rey sur cette chanson est impeccable. C'est une excellente chanson. Mais mon vote va quand même pour Heroin de Velvet Underground, qui est une expérience en soi. Tu le disais, Mathieu, les guitares sont obsédante, la production un peu boboche, mais les crescendo, on sent vraiment où Velvet Underground veut nous amener, et on y va avec plaisir ou pas, parce que après tout, il reste question de drogue dure. Je vote Velvet Underground.
C'est noté. C'est pas voulu, mais on retourne en Australie.
On retourne en Australie avec Get Free, une chanson de Lana Del Rey qui partage son titre avec celle de The Vines.
Ouais.
Marc-André, veux-tu commencer?
Ouais, je peux commencer. Moi, ça m'a rappelé ces deux semaines de 2002 où The Vines était le bout de la merde. Puis on a complètement oublié que ça existait pendant les 18 années suivantes. Mais maudit, ça sonne hein, quand même, cette chanson-là. C'était vraiment un hit. Je sais pas si c'était de l'été, mais c'était vraiment un gros hit, cette chanson-là. Ça m'a fait beaucoup de plaisir, moi, de revisiter cette espèce de furie là de ces années où les groupes rock avec le « de » au début rockaient notre vie au complet. J'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Ça m'a fait du bien de la réécouter. Je pense que c'est un peu un cas comme Freak de Silverchair de tantôt. Je vais donner un point nostalgie à The Vines. Puis c'est rien contre la chanson de Lana Del Rey. C'est vraiment que ça m'a vraiment fait du bien de réécouter ça, The Vines.
En la réécoutant, je me disais, bravo, c'est un hymne post-grunge parfait.
Ouais, exact.
Mais c'était écrit dans le ciel que c'était un one-hit wonder.
Ouais.
C'était produit comme un one-hit wonder, ça sonnait comme un one-hit wonder. Je suppose que quand on l'entendait, on savait que ce groupe-là était excellent, mais qu'on n'allait pas en entendre parler tant que ça. Mais en tout cas, peut-être qu'on pourrait être surpris d'entendre, de réentendre parler de The Vines plus tôt que tard. Mais toujours est-il que Lana Del Rey, autant j'ai dit à The Vines bravo d'avoir écrit un hymne post-grunge parfait, autant je dis à Lana Del Rey bravo d'avoir réécrit Creep de Radiohead 25 ans plus tard.
C'est dans mes notes aussi. On va mettre dans le show notes l'article de The Guardian qui analyse la chanson Creep et celle de Lana Del Rey. This is my commitment, my modern manifesto. I'm doing it for all of us who never got the chance.
Puis ce qui est fou quand même, c'est que
26 mars 2018.
Ah ouais, je vais aller lire ça.
Ce qui est fou, c'est quand même que Creep était déjà une copie,
c'est ça que je disais.
Creep, c'était déjà une copie de Hollies, The Air That I Breathe.
Ouais.
Et ce que je savais pas, cependant, en faisant mes recherches, parce que j'ai fait mes recherches, j'ai un mur en bas là. Dans mon sous-sol avec de la laine qui va d'un point à l'autre. Et je peux vous dire que Creep, c'était pas un accident, le fait que ça ressemble à l'autre chanson, à la chanson de The Hollies. C'est vraiment, quand ils l'ont composé, à un moment donné, le guitariste Ed O'Brien est arrivé et a dit « Hey, c'est les mêmes accords que telle tune. » Alors Tom York s'est retiré dans ses appartements et il a composé un nouveau bridge. She's running out, she run. Et ce bridge-là, c'est celui-là qui est copié de la chanson. C'était un hommage. C'était 100% volontaire le fait que ce soit la même mélodie. Et bref, je sais pas où je m'en allais avec ça. Oui, je sais où je m'en allais avec ça. En plus, dans celle de Lana Del Rey, il y a une référence à Neil Young, gros comme un bras. Out of the blue, into the black. Ce qui montre toute la culture impeccable que Lana Del Rey a de la musique pop et de la musique rock des 40 dernières années. Ce qui me pousse à dire, je pense que plusieurs de ces chansons-là, des chansons qui portent le même titre qu'une autre, qui sont des clins d'œil, qui sont volontaires. Il y en a que je suis pas certain. Je pense que Change, par exemple, ou West Coast, ou California ne sont pas volontaires. Mais il y en a plusieurs, je crois, qui le sont. Reste à savoir pour qui je...
Ton vote peut pas aller à Radiohead.
Mon vote va à
pour
Creep.
Qui je... non, mais j'aurais pris une pièce de monnaie, étant donné que je sors plus de chez moi. J'ai pris ma carte de crédit et je vais faire pile ou face. Alors, du côté argenté, ce sera Lana Del Rey. Je la tire et c'est Lana Del Rey qui a mon vote. Pile ou face, c'est Lana qui a gagné.
Très scientifique.
Très scientifique.
Ben, il reste moi. Écoute, Marc-André a parlé des deux semaines que ce groupe-là, The Vines, a été le plus gros groupe au monde. C'est un deux semaines que je les ai trouvés absolument insupportables. c'était le gars, il se prenait vraiment pour Kurt Cobain. C'était même pas subtil. La seule chose que j'aime de cette chanson-là, c'est qu'elle dure moins de 3 minutes. Fait qu'au moins, c'est bien ramassé. Tu sais, c'est bien ramassé quand même, mais ça donne vraiment pas le goût de retourner à l'album. Puis ça m'a rappelé aussi, je pense en 2002, au MTV Music Award, eux autres jouaient cette chanson-là et tout de suite après, c'était The Hives qui okay. jouait, je pense, Supply and Demand ou... Non, Main Offender. Fait que c'était cette époque-là, justement, là, comme tu disais, Marc-André, les groupes avec « de » devant.
Tout le monde a toujours mélangé The Vines et The Hives. C'est incroyable. J'ai fait une chronique récemment sur les 20 ans du premier album de The Hives. Et tout le monde me disait, ah oui, avec la toune Get Free. Non,
c'est pas eux.
Ah ouais, pour vrai. Hey, tu nous enverras le lien. On va mettre ça dans les show notes. Puis je veux l'écouter aussi. donc, ça pour dire, mon point va à Lana Del Rey. Parce que c'est une très bonne toune pour fermer... Lost for Life, l'album, je parle, qui est quand même quelque chose d'assez massif. 16 chansons pour 72 minutes de musique.
Pour le même prix alléchant de... Ça vaut combien maintenant un disque?
Un CD ou un vinyle?
Un CD.
Faudrait aller voir chez Jean Coutu, voir combien il vend.
Ouais, on regardera l'album des deux frères, ça va être notre barème. sinon, je sais que j'ai acheté Norman fucking Rockwell au Urban Outfitter. Pourquoi je l'ai acheté là et non dans une boutique indépendante? Parce que c'est la version que les vinyles sont roses.
Ah, c'est trop joli.
C'est tout.
Bon choix.
Parlant de rose, ou proche?
Parlant de rose.
Quel mauvais segway.
J'aurais dû parler de Urban Outfitters, mais c'est correct. Ouais. Ben, c'est ce qui reste. Ouais, non, c'est beau.
Ben, quel mauvais segway, mais c'est pas grave. Parlons maintenant de la chanson Cherry. Donc, on va parler de quelqu'un que j'ai appris qu'il existait, Harry Styles.
Ouais, on t'a appris qu'il existait. T'étais pas un fan de One Direction?
Ben, pas vraiment.
T'étais pas un One Deer? C'est comme ça que s'appelle Marc-André, les fans de One Direction?
Bonne question. Probablement. Oui. Les unidirectionnels, là.
Les sens uniques. Vas-y.
On est dans la même lignée que, d'après moi, que Imagine Dragon. J'ai beaucoup de Z. Dans mes notes, je l'ai pas plutôt complet. Mais voilà, c'est beaucoup trop pop, beaucoup trop propre. Bon, la chanson de Lana Del Rey est d'ailleurs un peu plus courte qu'à l'habitude, une belle production. Mais avec beaucoup de couches de son. J'aime quand même beaucoup les reverbs, toutes ces choses-là. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne chanson de Lana Del Rey.
Marc-André?
Ouais, tout à fait d'accord. J'aime beaucoup cette chanson-là. Ça fait 3 ans que je me demande que veut dire la phrase « And all of my peaches are ruined ». Je la comprends pas. Je cherche encore, mais hey, j'aime ça les phrases un peu ambiguës de Lana, que tu te doutes qu'il y a un innuendo sexuel là-dedans, mais tu sais pas trop ce que c'est, en tout cas. Bref, mais j'aime beaucoup cette chanson-là, je la trouve bien produite aussi, je trouve qu'elle sonne bien, le son est aéré, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis Harry Styles, moi, je trouve ça complètement insignifiant, ça me touche pas du tout, c'est ben trop clean. Ça m'a fait un peu le même effet que la chanson de Imagine Dragons, moi aussi. Ouais.
Et la chanson de Lana Del Rey a un superbe refrain. Contrairement, par exemple, à la chanson de Harry Styles qui a été visiblement écrite pour partir un rappel dans un spectacle. c'est clairement ça. Alors, je vote Lana. Moi aussi, je me range du côté de la famille. Je vous amène en territoire un peu plus glissant avec The Greatest, une chanson qui partage son titre avec celle de Cat Power. Mm-hmm. Je te permets de commencer, Marc-André?
Oui, ben écoute, encore une fois, je vais peut-être choquer bien des gens en disant que Cat Power, c'est pas exactement mon artiste favorite, mais c'est une grosse chanson de Cat Power. C'est probablement un de ses, je pense que c'est peut-être son pilier. Si t'avais à faire entendre une chanson de Cat Power à quelqu'un, ce serait celle-là. C'est une grosse tune et j'aime bien celle de Lana Del Rey, mais je trouve qu'elle n'accote pas exactement la grandeur et l'importance de celle de Cat Power.
Je suis d'accord avec toi. J'ai entendu la chanson de Lana Del Rey et je me suis dit « Ah, de la guitare! » Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu. Mm-hmm. Et pas de la petite guitare, là. C'est de la grosse guitare sur cette chanson-là. J'aime beaucoup la guitare. Mais toutefois, Cat Power, c'est un superbe album. C'est une super chanson et dans la mélancolie, dans le piano, les réverbérations, j'aurais tendance qu'elle est plus Lana Del Rey que Lana Del Rey. Donc, je donne le point à Cat Power. Et je mention spéciale à Sia, qui a une chanson qui s'appelle The Greatest aussi,
qui est très bonne aussi, hein.
Et qui est très bonne, une voix super expressive, on sent l'urgence, la production le rend bien. J'aurais donné mon point à Sia contre Lana Del Rey là-dessus, mais là, je donne mon point à Cat Power.
Hey, moi, je fais bande à part, je donne mon point à Lana Del Rey, c'est une de mes préférées aussi sur Norman Fucking Rockwell. Avait eu un 9.2 sur Pitchfork. Fantano là, de Needle Drop sur YouTube, je pense qu'il a donné un 9 sur 10 aussi, cet album-là. Et donc, juste pour dire que je ne suis pas le seul à l'aimer. celle de Cat Power, je l'ai quand même aimé. J'ai découvert Cat Power en fait en faisant cet exercice-là. Puis j'ai vu aussi que elle était souvent cotée tant de style sadcore. C'est quelque chose qui vient me parler. Sadcore, slowcore. Je suis quand même un vieil homme. Donc, j'écoute quand même du Code In et Red House Panthers, ces choses-là. Mais non, mon point, je reste avec la belle Lana.
Et si on reste très loin du sadcore et qu'on compare la chanson Ride de Ciara. Là, j'avoue mon ignorance, je ne connaissais pas Ciara.
moi non plus, mais je connais Ciara. Mais moi, ce qui m'a amusé, je peux-tu commencer? Moi,
vas-y.
Cette chanson-là m'a fait rire. Là. J'ai trouvé ça drôle, écouter ça. C'est tellement cliché. Mais en même temps, c'est entraînant. Je l'ai comme aimé un peu, cette chanson-là, parce qu'elle est mauvaise, mais drôle. J'aime l'espèce de rappeur au début, à la fin, avec la voix ralentie. Ça m'a fait penser à Capitaine Canada, que j'ai écouté tout l'été. Puis il y a comme un rap de Ludacris qui arrive en plein milieu de nulle part. Il fait des références sportives. C'est n'importe quoi. Alors que la chanson de Lana Del Rey, c'est honnêtement une de mes 3 ou 4 préférés. Une chanson grandiose, un immense refrain avec des cordes, c'est magnifique. C'est vraiment une chanson marquante que tu fais écouter à n'importe qui. Puis quelqu'un qui dit « j'aime pas Lana Del Rey », tu fais écouter Ride, puis pour vrai, si t'es pas touché par cette production-là, t'as pas de cœur, je trouve. Un point pour Lana Del Rey, ça va.
C'est un gros point, ça.
Mais quand même un gros lol pour Ride de Ciara. Ben, j'ai adoré ça, je pense que je vais la réécouter.
Ah oh, ouais, hey, tu me surprends parce que moi c'est tellement pas dans mon style.
C'était, ah, c'est pas mon style non plus, mais je l'ai trouvé
c'était
drôle.
C'était tellement rempli de clichés, j'ai trouvé ça insupportable, le rapper. Hey, en plus, il pousse ça là, jusqu'à la barre des 5 minutes. C'est
beaucoup trop longtemps.
La fille qui danse, le char.
Toi, tu reproches à quelqu'un de faire une chanson trop longue.
OK. On reviendra là-dessus. mais pour revenir à ce que tu disais, tu avais des super bons points, Marc-André. La production de Ride de Lana Del Rey, c'est Rick Rubin qui est derrière ça. Ça m'a jeté par terre. Je m'attendais pas à ça du tout.
Je savais pas, mais...
qu'elle avait déjà travaillé avec ce légendaire producteur dont on a légèrement parlé dans l'épisode Angel of Death.
C'est vrai. C'est lui qui était derrière à la fois Slayer et le premier album des Beastie Boys. En même temps,
ouais.
C'est quand même quelque chose.
Ce qui nous fait dire que c'est un gars polyvalent.
C'est un gars polyvalent.
Mais j'ai aussi beaucoup aimé le vidéoclip. Là. C'est quand même ça aussi. On aime ça trouver des similarités dans les chansons qui n'ont pas.
Oui.
Le clip de Lana Del Rey, quand même un peu cliché. C'est l'espèce d'Amérique mythique, se promener en moto, ces choses-là. Il y avait quand même certains clichés, mais oui, c'est grandiose, c'est très beau. C'est vraiment une chanson à écouter et à réécouter.
Je donne aussi mon point à Lana pour la variété vocale, l'étendue vocale dont elle fait preuve là-dedans, l'étendue d'instrumentation aussi. Ciara, c'est sa chanson a une mélodie accrocheuse, mais ce qui m'a dérangé le plus, c'est que la métrique des paroles est tellement pas respectée. Il y a des syllabes répétées sans raison et ça vient briser complètement le flow des paroles, ça vient briser la mélodie. J'ai trouvé ça beaucoup moins bon. Donc, pas de vote pour Ciara de mon côté. Toutefois, en passant, je mentionne que le plus récent succès américain du groupe The Vines s'appelle Ride. En 2004, la dernière fois qu'ils se sont inscrits au palmarès américain, c'était avec Ride, que je n'ai pas écouté, Mais toutefois, je vous le dis comme ça, et il va y avoir un extrait qui va être ajouté au montage maintenant.
Ben, tu m'apprends quelque chose.
Ben, c'est à ça qu'on sert.
Ils ont plus qu'une chanson, ma foi.
Ouais, c'est exactement. C'est exactement ça, mais ça a passé solidement dans le beurre en 2004.
Ça a passé dans le beurre et... Ouais, c'est ça.
Donc, nous voilà à la fin. Ultraviolence, qui est la chanson-titre de l'album Ultraviolence de Lana Del Rey, qui partage une chanson là, avec le groupe américain metal The Offering. J'ai le micro, je vais parler. The Offering est un groupe de Boston qui fait dans le metal, je dirais, extrêmement cliché des 10 dernières années. C'est gros, ça, c'est sont sur Century Media. Ceux qui connaissent le metal savent que c'est dans le top 3 des plus gros labels du style. Mais non, ça ne m'a absolument pas impressionné. Oui, c'est une chanson qui est imprévisible, mais la production est tellement typique de tout ce qu'on entend depuis 10-15 ans du metalcore américain. Je l'ai même pas fini. Je savais exactement quoi m'entendre. Donc, ça pour dire que j'ai préféré de loin la chanson de Lana Del Rey. Beaucoup de textures, beaucoup de belles couches là, d'instrumentation. Ça a été un duel assez facile dans mon cas, même si je suis, je pense, le métalleux de service ce soir.
C'est vrai que c'est une chanson qui est imprévisible, mais qui est prévisible dans son imprévisibilité. Moi, je lui donne mon vote parce que, justement, ça nous amène ailleurs. Puis j'ai l'impression que ils ont pris le titre « Ultraviolence » au sens littéral et ils sont allés, ils ont joué, comment on dit, ils ont joué « All In », ils ont joué une mise complète là-dessus. Ils sont allés justement là, au complet, à fond sur la violence et je leur lève mon chapeau pour ça parce que ça reste une excellente production, puis bravo. Et salutations spéciales à tous les gens qui commentent sur le vidéo YouTube de The Offering en disant « The Offering, j'avais lu The Offspring. Haha. » Alors, tous ces gens-là qui ont la même blague, on les salue.
C'est proche dans les lettres. Hey, moi, je vous ai dit hein, que je me suis fait une petite playlist pour étudier... en vue de ce qu'on allait se parler. Fait que, j'ai écouté toute la liste dans l'ordre de ce qu'on vient de raconter. Puis là, j'arrive à la dernière toune, puis ça tombe sur une toune métal. Ça m'a réveillé en Simonac à 8h à matin, je vais vous le dire. Ça sonne très fort, mais pas très bon. J'ai pas vraiment aimé ça, je trouve, cette chanson-là de The Offering. Je connaissais pas ça du tout. Ça m'a semblé assez cliché comme heavy metal. Et en revanche, je trouve que la chanson de Lana Del Rey, c'est une bonne chanson de break-up qui a été produite par Dan Auerbach des Black Keys. Ça sonne très bien. C'est le titre de l'album. C'est la chanson éponyme. Je trouve que ça le fait vraiment. Une bonne chanson de Lana Del Rey. Mon vote va à Lana.
Bien, merci beaucoup, Marc-André. Ça met fin à notre...
Oui, mais là, on va dire le score,
à notre
j'espère.
Série. Ben non, mais attends, c'est ça. Ça met fin à notre okay. série. Là, je me tourne vers le juge qui a le sourcil froncé. Je pense que ses formules Excel ne donnent pas le résultat espéré.
Ben, c'est parce que François, il a décidé de ne pas donner de vote. C'est pour ça que ça balançait pas.
T'as le total. Mathieu, annonce-nous le total.
En tant que comptable de pauvre...
Alors, Mathieu...
Avec trois experts, je dois admettre que c'est une victoire à l'emporte-pièce pour notre amie Lana.
Oh!
La belle Lana, elle a 27.
Bravo, Lana.
17, ce qui ne marche pas en tout.
27 contre 17, ça fait 44.
C'est ça, exactement. Il y a une...
Ben c'est ça, moi, j'ai pas donné de vote.
Ah, ben
je
voilà.
Me suis abstenu une
c'est
fois.
Ça, c'est le 1 qu'on n'a pas ramené.
Mais ça n'aurait pas fait la différence.
Ça n'aurait pas fait la différence, en effet. On ne serait pas en prolongation.
Ah, c'est dommage, parce que la prolongation, on est passé tout droit dessus, mais Cinnamon Girl de Neil Young.
De Neil Young.
Oh!
Ouais, c'est une référence directe dans ce que
j'aurais dû me prononcer avant, mais... Ben, je pense que oui, c'est ça, mais ça fait quand même que la comparaison a lieu d'être. Je pense que Lana avait beaucoup de misère à battre le vieux Neil.
Je pense qu'elle aurait perdu la guerre sur cette prolongation injuste.
Injuste.
Ouais, non, je pense que Neil aurait scoré dans un filet désert.
Mais toutefois...
En prolongation, ce qui est quand même rare.
Je pense pas que c'est déjà arrivé, mais ouais, en effet. Écoute, voilà, on voulait faire l'exercice à savoir si Lana Del Rey pouvait gagner contre l'industrie musicale. La preuve est faite.
On a réussi à prouver, hors de tout doute raisonnable, avec une méthode scientifique irréprochable, un échantillonnage clair et net et un panel d'experts au-dessous de tout soupçon, que Lana Del Rey se défend et même bat l'industrie musicale, le reste de l'industrie musicale, que Lana Del Rey est l'artiste la plus importante du troisième millénaire après Jésus-Christ. C'est une conclusion assez importante et je vous remercie, messieurs, d'avoir participé. Mathieu, merci beaucoup de nous avoir organisé cette balado, cet épisode spécial 15e anniversaire de One Contre One. Marc-André, merci beaucoup d'avoir participé. Marc-André,
grand plaisir.
Toi aussi, on peut t'entendre beaucoup plus dans d'autres balado-diffusions, si je ne m'abuse.
Ouais, ben y en a un qui va peut-être plaire à ceux qui écoutent votre One Contre One, qui s'appelle Big Shiny Toon, avec un O, T-O-U-N-E-S, un balado entièrement dédié à des albums ou des artistes de la musique alternative des années 90. Et j'en profite pour vous mettre on the spot et vous dire que j'aimerais ça vous inviter tous deux. Pensez-y, puis si ça vous tente de parler d'un album ou d'un artiste des années 90, dites-moi lequel, puis on se refait ça à l'inverse. Je vous invite à Big Shiny Toon.
Avec plaisir.
Ça va être avec plaisir parce que c'est un podcast que j'adore. La seule chose que j'aime pas, c'est que j'y ai pas pensé avant.
Je fais une petite pause ici, François, pour vous aviser que l'épisode que Marc-André vient d'évoquer a été enregistré et a été diffusé. C'est l'épisode 9 de Big Shiny Toon qu'on peut trouver sur sortu.ca. Mathieu et moi, on y a évoqué l'album Pablo Honey de Radiohead comme si ça avait été le seul album du groupe. Je crois que c'est assez intéressant. Vous pourrez trouver le lien dans les notes de cet épisode. De retour à notre programme principal.
Fair enough, mais je suis aussi un peu jaloux de votre concept de One Contre One. Il y a tellement de titres qu'on peut faire avec ça, ça n'a aucun sens. Vous pouvez faire 125 épisodes. Là, c'est...
La liste est monstrueuse. Des fois, j'ai peur de m'y aventurer.
Mais à 15 par 15, comme ça, comme à soir, là, ça, tout va bien.
C'est ça, on en a bas du travail. Puis, c'est bien. Quand on dit que les Québécois sont pas capables d'atteindre un niveau de productivité intéressant pour augmenter le PIB, je vous demande, c'est quoi ça, messieurs, ce qu'on vient de faire? On vient d'augmenter la productivité au moins
30%. L'appel est lancé au HEC Montréal. mettez-vous sur le dossier.
Puis abonnez-vous. Puis allez sur one.contre.one pour en parler à vos amis. Et si vous aimez ou si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à l'adresse oneacommercialcontre.one. À bientôt. Merci Marc-André. Merci Mathieu.
Grand plaisir. À bientôt. Bye.
On coupera ça.
Ce qui est dans le show, dans le show.
Ce qui est dans le show, dans le show.
Vas-y.
Ah oh, oui.